Radio Spirale. Dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal, se tenait le 29 mai 2015 un colloque bilingue ayant pour thème « Langue poétique, Poetic Languages ». Radio Spirale présente la quatrième et dernière partie avec Daniel Canty et Guillaume Morissette.
Alors, on est déjà rendu au dernier segment. J'accueille Daniel Canty. Daniel Canty qui est traducteur. Qui a traduit entre autres Michael Ondaatje, Erin Mouret, qui est aussi écrivain. Ses livres Vigroum et Les États-Unis du Vent sont en traduction. Les États-Unis du Vent vont sortir bientôt en version traduite.
Ouais.
Et chose assez particulière, Daniel Canty traduit également vers l'anglais, donc du français vers l'anglais. C'est assez rare de voir des traducteurs qui font dans les deux sens. Daniel, bonjour.
Ah, ok, bonjour. c'est drôle en fait parce que moi je vais vous lire là, un essai, la postface que j'ai écrit pour ma traduction des Petits Théâtres d'Erin Mouret, qui est une poète montréalaise qui est installée ici depuis 34 années, qui n'avait jamais été traduite, puis qui est peut-être une... Tu sais, on aime ça dire que tel ou tel auteur est important, mais c'est certainement une des poètes les plus... relationnel, disons, des poètes montréalais. Ça crée des communautés, elle échange beaucoup avec ses pairs, avec les gens dans d'autres communautés linguistiques, elle travaille beaucoup à l'international. Des fois, on aime ça, je la connais aussi, une amie, faire des blagues, c'est comme la Nicole Brossard anglophone, là, ni plus ni moins. Puis j'aimerais parler, en fait, en préface là, à la lecture de la postface. j'ai traduit Stephanie Bolster, en fait. J'ai traduit Pierre Blanche, son premier recueil, qui est plus une construction narrative, en fait, ou une série de variations autour du thème d'Alice au Pays des Merveilles. Puis c'est assez drôle, parce que ce qui m'a décidé à traduire Stephanie Bolster, c'est comme un signe, en quelque part. Une espèce de comportement semi-mystique qu'on a parfois comme auteur. J'habitais à Vancouver, en anglophonie, au coin de 14e et Granville, à Vancouver. Et puis, ça me trottait dans la tête l'idée de faire une traduction des recueils qui m'avaient touché pendant mon, entre parenthèses, exil, terme à être utilisé de façon non dramatique. Je l'ai vu au coin de la rue avec ses parents, je pense. La journée que j'étais en train de réfléchir, puis j'ai dit, coudonc. C'est la fille sur la photo, ça, du livre de Vehicle Press, où travaille Carminé maintenant, comme éditeur. Puis je trouve ça drôle que la communication est portée sur Stéphanie. Puis là, j'ai fait comme, ah, elle a l'air sympathique. Tu sais, je peux aller m'immiscer dans la conversation, quoi que ce soit. Puis je dis, bon, ça me décide, je vais la traduire. Puis ce que je vais vous lire sur Erin Mouret, c'est un peu un geste semblable, parce que c'est une rencontre avec elle. Au Festival Métropolis Bleu, elle lisait en même temps qu'une amie, René Gagnon, dans une de ses chambres d'hôtel trop petites, mal éclairées, avec un tapis douteux. Et puis, sa présence était telle que ça aussi, ça m'a décidé à ramener ce livre-là dans ma propre écriture, parce que l'acte de traduction, c'est ça aussi, c'est l'idée de, comme la baleine avale les nageurs dans d'autres substances linguistiques. En quelque part, lire un livre, c'est l'avaler aussi pour en faire un nouveau poumon. Si on file la métaphore là, infiniment. je trouve ça drôle, vous allez voir le registre d'image où ça a quelque chose à voir avec ce qui a précédé, surtout parce que ma communication, on appelle ça une communication dans ces contextes-là, c'est drôle, s'intitule « Chien d'eau ». Hein? Et la baleine était un espèce de gros chien. Fait que je vais vous lire en fait la version originale. Quand je traduis par écrit, il n'y a pas d'accent, mais il y en a un quand je parle. Du poème qui m'a convaincu en fait de traduire Erin Mouret, de la nécessité de la traduire et de la nécessité de faire passer cette langue-là dans la mienne. The love of the dog. I love a little dog of water. From the field it comes into my window. It is just a little peg, my dog of water. Did you see it in the grass and on the leaves with its temperament? It is my dog of water. Look how it touches the glass. Je vais vous lire maintenant en galicien, qui est la fausse langue maternelle d'Erin Mouret, parce qu'elle l'a appris en apprenant qu'elle avait des antécédents galiciens. Au amor do can, amo un pequeñino candahogua, das leras venna miña fiestra. E su amante una cavilla pequena, o meu candahogua, vicello, na erba e por riba das folas, coseu temperamento. E o meu candahogua, mira como toca o cristal. Ce qui était assez intéressant dans le processus de traduction de ce livre-là aussi, c'est que les poèmes sont souvent en miroir galicien et en anglais. Puis Erin, qui est très gentille, elle m'a dit que j'avais fini par produire les originaux des poèmes qui étaient en galicien parce qu'ils sont plus proches que ses traductions anglaises de son galicien approximatif. Parce qu'on peut revenir aux racines latines du galicien à travers le français. Puis la sonorité finale finit par se rapprocher plus de l'original, devenir un intermédiaire finalement entre l'original galicien, son miroir anglais. La traduction s'inscrit entre les deux dans l'ordre de préséance, selon Erin, mais ça dit peut-être ça pour que je me sente bien. Donc je vais vous lire tout simplement la postface à ce livre qui a très mal vendu, mais qui a pourtant eu des critiques dans les journaux principaux de la province, dans certaines revues populistes. Et puis apparemment, ça aide pas à vendre des copies de livres de poèmes en traduction. Fait que si Carmina aurait été ici, on aurait pu poursuivre la discussion de ce côté-là. Souvent, ils n'envoient pas les rapports de vente, d'ailleurs, aux traducteurs. C'est seulement les auteurs qui les reçoivent. Puis là, un jour, ils t'informent. Ils viennent de m'appeler, ils vont pilonner notre livre. Fait que c'est parfois comme ça que ça arrive. Bon, donc, ça s'intitule, ça aussi, « Chien d'eau ». Erin Mouré m'a un jour confié, après la lecture d'une amie poète, « Her language has grit, and that's what counts. » Je traduis librement. « Sa langue a du chien, et c'est ça qui compte. » Quand je l'ai connue, il y avait déjà 22 ans, une quinzaine de livres qu'Erin Mouré habitait Montréal. Je ne l'avais encore jamais rencontrée. Je n'étais certainement pas le seul à me retrouver dans cette situation. Je me rangeais parmi un auditoire aligné en rang d'oignons, sous le plafond trop bas et les néons trop blancs d'une chambre surclimatisée d'un hôtel de Montréal, métropolis bleue. Erin Mouré se présente devant nous, la démarche assurée, petit théâtre en main. Avec des gestes vifs, elle nous explique qu'elle lira d'abord en galicien. On sent l'énergie qui affleure sous sa parole, afflue de son corps entier. Les galiciens se font rares à Montréal, et dans l'hôtel aussi. Avant de tenter de comprendre le poème, nous devrons d'abord l'entendre. La méthodologie proposée, où l'absorption précède l'interprétation, me semble une excellente stratégie de transduction poétique. L'entendement, après tout, est le nom ancien de la conscience. Elle se lance dans la grammaire du chien, la grammatica do can, tenio un pequeñino can de agua, I have a little dog of water. Force est de rendre à Erin Mouré son mot amical. Il est indéniable que sa langue, en galicien ou en anglais, a du grit, et en français, du cran ou du chien. Un cabot, pourquoi pas, peut-être un peg, un crochet ou, oui, un cran. It is just a little peg, my dog of water. Je sens courir devant elle son petit chien d'eau et un pan de lumière embrouillé remplit la chambre d'hôtel, malléable comme un plan d'eau. Each leaf of grass dips a scarf into its passing. Le poème trace un sillon sonore, ondoiement d'un écho qui s'égare. À son passage, les herbes hautes ont des révérences d'algues aquifères, un courant circule, je suis assis tout au fond, l'énergie d'Erin Mouré se cale en moi. Quand le petit chien file à mes pieds, son sourire m'atteint, on le sait, le traducteur est un traître. Sentant l'appel de la langue de l'autre, il n'a pas le choix de trahir son amitié pour elle et de faire montre d'une loyauté de chien. Les mots savent sur nous des choses que l'on ignore. Lorsque je considérais en imagination le décor des petits théâtres, je dois avouer que je commettais une bête faute d'appellation. Cette erreur comportait pourtant une part étonnante de vérité. J'avoue avoir été longtemps persuadé que la Galice de Petit Théâtre était la Galicie d'Europe de l'Est. Après tout, le borch et les bottes de soldats y figurent généreusement. Il y a des poèmes sur les betteraves, les oignons, l'ail, etc. Dans notre langue latine, Galice et Galicie existent à un « i », un « i », l'une de l'autre. Pour ce qui est de la géographie, c'est une toute autre histoire. Suffirait-il de repenser la question dans une langue étrangère pour éviter cette erreur? Je ne connais bien que le français et l'anglais, alors qu'en galicien, langue latine, la Galice a pour nom Galicia ou Galiza. En anglais, Galice et Galicie se disent toutes deux Galicia, ce qui n'arrange rien. Lorsqu'on a recours au français, langue latine, pour nommer ses réalités, une galicienne pourrait tout aussi bien être originaire de Galice que de Galicie. Qui plus est, le radical « gal » dans les langues celtiques et indo-européennes désigne l'étranger. Il est bon de noter que c'est de cette racine aussi que nos ancêtres, les Gaulois, tirent leur nom. Il est parfois sage de regarder ailleurs pour se faire une raison. Galice et Galicie, contrées que rapproche l'orthographe, ont aussi en commun d'avoir été absorbées par leurs voisines. L'Espagne dans le cas qui nous concerne, la Pologne et l'Ukraine dans celui qui nous en éloigne. Deux anciens royaumes disparus dans d'autres pays, effacés par le temps et l'histoire, dont les noms pourtant demeurent et en réaffirment l'existence. J'avais raison d'avoir tort sur la question des deux Galices ou des deux Galicies. Erin Mouré pourra en effet vous confirmer que le nom qu'elle tient de son père, né dans la capitale du Canada, est bel et bien Galego, alors que celui de sa mère vient, comme sa mère elle-même, en ligne droite de Galicia. L'arrière-grand-père paternel d'Erin Mouré, chef et majordome de profession, quitte la Galice en 1848 et migre, de cuisine en cuisine, de Lisbonne à Paris, à Londres, où il s'éteindra. Sa veuve, qui a un frère en Ontario, immigre au Canada avec ses trois enfants, dont le futur grand-père Mouré. Son grand-père maternel, ancien soldat de l'Empire austro-hongrois, forgeron puis fermier, quitte ses terres en 1929 pour venir s'installer en paix en Alberta. On peut donc en déduire que le latin de la mère d'Erin, évoqué dans le premier récit du latin, longue suite finale des petits théâtres, n'est pas le latin d'Erin. La morale de cette histoire de cuisine est la suivante. Même si elle n'est pas la nôtre, la langue maternelle de nos mères fait partie de nous. Nous serions bien avisés de nous entendre sur son compte. En majuscule, le « i » qui sépare Galice et Galicie est la lettre maîtresse de l'identité anglophone, le « i », affirmant la singularité grammaticale de la première personne. Erin Mouré, comme on dit, « her own woman ». Elle sait très bien d'où elle vient par ses parents et où elle s'enracine dans la langue. Née à Calgary, en anglophonie, de Galiciens mêlés, Erin Mouré se serait peut-être installée à Montréal par naturel penchant mixophone. Montréal est une île parmi tant d'autres et la mixophonie d'Erin Mouré, une robinsonnade parmi tant d'autres. C'est le destin des pays où des personnes mixophones, comme la Galice et la Galicie, Erin Mouré ou ses traducteurs, de s'inventer une identité en se laissant imprégner par le milieu qui les entoure. D'abord fidèles à eux-mêmes, les mixophones apprennent à étendre la portée de leur langue maternelle et à circuler entre les langues comme un poisson dans l'eau, ou une baleine, ou pourquoi pas comme un chien qui rêve de nager alors qu'il court à travers champs. Petit théâtre s'enracine profondément dans le terreau de la langue qui est notre bien commun. Tout un paysage s'apprête à exploser devant le brave petit chien d'eau traversant la paroi qui me fait dos. C'est une vue de l'esprit, bien sûr. Galice ou Galicie ont subi les invasions et les disputes politiques. Ce sont des contrées où on connaît fort bien la différence entre les bottes du soldat et celles du cultivateur, le cirage des casernes et la boue des champs. Le chou, l'oignon, la patate et l'ail que l'on retrouve dans les hommages à l'eau de petit théâtre sont de parfaits ingrédients pour un borscht révolutionnaire. Ma confusion galicienne doit beaucoup à cette soupe des solidarités paysannes, tout ce qu'il y a de plus est-européenne. Emmagasinant l'eau du ciel, préparant leur explosion sous terre, les tubercules glorieux semblent les munitions d'une révolution permanente qui fait fi du tracé des frontières sur les cartes. Ces ingrédients d'une soupe primordiale, s'il évoque le potentiel disputable des terres, paraissent aussi contenir les germes d'une paix universelle conclue par l'accord savoureux des langues. Échappé de la chambre d'hôtel en traversant l'image qui le contient, le petit Peg n'a pas besoin d'écrire pour savoir par quel chemin la poésie rejoint le monde. Il m'assure que le paysage du poème se poursuit de l'autre côté des murs verts institutions. D'ailleurs, si vous le lui demandez, Erin Mouré vous dira que la Galice est un pays qui verdoie de toutes les verdeurs. Un pays aigue-marine, d'eau et de terre mêlées, pays de verte lecture où l'identité s'invente, vraie jungle si on m'accorde l'analogie. L'expression évoque de toute autre latitude, mais l'image est juste. Il faut être conscient que le Galicien d'Erin Mouré, si souvent reflété dans le miroir des pages de petit théâtre, a été appris grâce à la méthode Tarzan, et que s'il y a un père et une mère derrière petit théâtre, il y a aussi un singe. À l'occasion d'une fête, les parents d'Erin Mouré offrent à leur fille un exemplaire cartonné dans l'édition Whitman Classics de Tarzan of the Apes, d'Edgar Rice Burroughs. Des années plus tard, tandis qu'un oubli tenace travaille le père, sa fille qui l'aide à déménager retrouve ce cadeau chez lui. Comment s'empêcher de songer à Tarzan découvrant les reliques de son autre enfance dans les ruines de sa maison natale? Les garçons et les filles du monde entier sont encore et toujours les héros de leur première lecture. Erin Mouré a deux frères, et son père affirme d'autorité que ce livre de garçon leur appartient. Elle tient à repartir avec ce qui lui revient. Tarzan a pour elle une valeur sentimentale. La petite poète, signant quelques vers en langue singe, aurait cherché à entièrement s'approprier cette syntaxe orpheline. Elle a dérobé au pouvoir de ses frères en déchirant le Ape English Dictionary afin de le garder pour elle seule. Entamant sa démarche d'appropriation, elle se ravise par excès d'humanité. À des décennies de distance de cet acte manqué, elle signale à son père la présence d'une déchirure à la première page du bref Ape English Dictionary qui figure à la fin de l'ouvrage. Une humble hésitation de 5 cm parvient à la convaincre du droit de sa fille. Un signe distinctif permet à Erin de renouer avec son héritage perdu. Petit théâtre s'ouvre sur Aturuxos Kalados, un ululement sauvage, c'est ce que ça veut dire, qui a la paradoxale propriété d'être profondément silencieux et qui ne peut que rappeler l'appel sourd de l'homme-singe entendu au détour des pages de Tarzan. Et Petit théâtre s'achève, comme le livre d'enfance, ni de fille ni de garçon, sur un Diccionario Pecuenino. Ici, comme dans le Ape English Dictionary, les mots-outils qui assurent la plénitude de nos phrases manquent à l'appel. Il ne nous reste, pour pénétrer les reflets galiciens de Petit théâtre, qu'à y plonger en singeant la méthode d'adoption d'Erin Mouret. Remontant bravement les maillons manquants de la chaîne identitaire, nous constatons avec joie qu'entre singe et cygne, liane et liant, Galice et Galicie, nous n'en demeurons qu'à une lettre près. Le galicien n'est pas le galicien, et si l'anglais n'est pas le français, ceux-ci se parlent. La passion de l'homme-singe peut nous mener bien loin dans la compréhension de ce phénomène. Tarzan, c'est une histoire bien connue, réapprend sa langue maternelle par amour pour Jane. Lui, papa, elle, maman, moi, Tarzan, toi, Jane. Toi, A, moi, O. Dans le latin d'Erin Mouret, la grammaire accuse l'extrême proximité des sexes. Au final, en galicien comme en galice, la différence du masculin et du féminin ne tient qu'à un O ou à un A. A, E, I, os, araos. Si la langue maternelle d'Erin Mouret est un grand singe, le latin des araos, oiseau de mer, dont elle se réclame, est une langue d'amour et d'eau saline. Un flot remontant par la gorge et l'écluse de nos corps et de nos cœurs, où affleure la tristesse de celle des brisants, qui sépare le pays du pays, et la menace mélancolique de la Marea Negra, à laquelle répond le désastre bilieux et asphyxiant du tanker Prestige, renversé au large de Galice en 2002. C'est tous des thèmes qui figurent dans le recueil, c'est une postface. Hein? La Soledade, chant d'amour solitaire, est la marque d'une solidarité indéfectible avec les sentiments. Elle sait que le pointillé des frontières tente en vain de contenir les débordements du monde. Serez-vous surpris d'apprendre qu'Erin Mouret a partagé l'écriture de Petit théâtre? Le livre est constellé de citations et de dédicaces, où l'auteur reconnaît et accueille la parole et la présence des autres en elle. Surtout, elle avoue sa dette à une autre amoureuse de la langue, Elisa Sampedrine, qui n'attendait que cela pour revenir à nous. Elisa Sampedrine est créditée comme une des co-auteurs de Petit théâtre. Elisa est un personnage tissé d'aller-retour, qui sait qu'il suffit d'être deux pour se monter tout un théâtre. Son nom de famille, Sampedrine, contient le prénom d'Erin. Cette douce amie, correspondante galicienne de l'auteur, est la première à thésauriser et théoriser les manifestations de Petit théâtre. Ils apparaissent avec les noms des villages qu'elle traverse, arpentant en pensée les chemins et les cols montagneux ou contemplant la pente des toitures paysannes. Dans son premier livre, il y a des livres d'Elisa Sampedrine à l'intérieur de Petit théâtre, elle nous décrit 8 petits théâtres des Corniches qui empruntent leur nom au lieu-dit de Galice, contraire à la toponymie particulièrement prolixe où des noms sont donnés au moindre recoin reconnaissable. C'est ainsi qu'on peut se retrouver à Santizo dans plusieurs endroits à la fois, ou à Fantao en 1943 et maintenant. Dans son second livre, c'est quelques notes sur Petit théâtre. Le second livre ramène Elisa au monde et à son séjour canadien, où elle catalogue, en prenant bien soin de les dater, les occurrences de Petit théâtre qui, singulièrement, se manifestent sans article comme en langue singe. Un chapelet de village, un florilège de dates, les livres d'Elisa donnent à Petit théâtre l'espace et le temps nécessaires à son déploiement. Elisa s'éclipse et nous revoilà seuls en pays étranger. Le chien d'eau nous y a précédés. Il court encore entre les poèmes printaniers de la neige de fin de mai. Lorsqu'Erin Mouret évoque l'ancienne mémoire de mai, Recuerdo Antiguo de Mayo, un poème en galicien apparaît sur une page dextre. Revoilà notre mur d'hôtel, transformé en rideau de pluie. Nous traversons de l'autre côté du miroir, où la buée des rêves flotte sur la verdure humide, et nous pouvons nous retourner vers nous-mêmes en toute discrétion. Quelqu'un se retourne vers quelqu'un, l'étranger se rêve en nous. Les autobiographies du sommeil sont l'œuvre d'un « je » qui parle à travers un « tu ». Cette suite de poèmes écrits comme s'ils étaient rêvés par deux personnes à la fois propose un détour par l'amour avant de retrouver le latin maternel du premier récit du latin où la langue s'est inventée seule, dans l'attente de l'autre en soi. L'action de petit théâtre se déroule nulle part et partout à la fois, dans la solitude et la communauté d'un livre. Un livre, comme une tête de chou ou de poète, est un petit théâtre, et celui-ci est le petit théâtre de petit théâtre. Les livres s'inventent une langue pour nous parler. Ce sont des actes de langage qui nous projettent dans le drame minuscule et universel de la langue, notre héritage commun. À chaque chapitre de petit théâtre correspond le lever de rideau d'une représentation qui tient dans la parenthèse des pluies. Il se met à pleuvoir dès que commence ce livre pétri d'eau et de terre natale. L'espacement des poèmes d'Aturoxos Calados mime le ploc-ploc des premières gouttes de pluie sur les prés, des pensées suspendues à leur mobile, jusqu'à ce qu'une page submergée rappelle que le rideau immatériel des petits théâtres peut partout se lever. À la fin ou au début, rideau, quel est ce mot, on doit dans la pluie, c'est le moment de petit théâtre. Elisa Sampedrine le dit, Erin Mouret l'écrit, le petit pègle l'aboie, l'oiseau de mer le piaille, la patate le pense, Tarzan nous l'apprend, nous aussi sommes là, nous savons qu'on parvient au pays pluvieux en se faufilant entre les gouttes. Pour y arriver, il suffit d'exister dans la langue. Reconnaissez-vous votre latin dans le miroir des pages? À des années de distance, je trahis mon amitié et je redonne à Erin Mouret le latin qui est le sien. Il a du chien. C'est compliqué quand on n'a pas lu le livre.
C'est ça qu'on n'est pas loin de Pessoa.
Ah, avec Erin?
Je sais pas, ça m'a fait penser à ça.
Ah oui, peut-être, oui. Ben, non, je tu sais, moi, Pessoa, je ne l'ai pas lu tant que ça.
Non, mais je veux dire, jouer avec les...
Les identités, les mots, ah, oui, c'est vrai. Mais la Galice n'est pas le Portugal.
Non.
Chose importante à mentionner pour les Galiciens.
Donc, on ira avec les questions plus tard. On a Guillaume Morissette avec nous. Guillaume Morissette est connu pour son livre New Tap, qui a été publié, et non pas New Tap, parce que dans Le Devoir, ils ont écrit New Tap. Donc, New Tap, qui a été publié chez Véhicule Press. Il est aussi éditeur pour Metatron, c'est bien ton statut?
C'est co-éditeur, en fait.
Co-éditeur, donc pour Metatron Press. C'est une nouvelle maison d'édition qui a publié...
2014.
2014.
C'est... Ouais, je vais en parler un petit peu, en fait.
Parfait, donc je te laisse la parole.
Cool. Je pense que ce que je vais faire, moi en fait, j'avais préparé, je pensais qu'on allait avoir un projecteur, donc j'avais préparé une présentation avec PowerPoint. Fait que je pense que ce que je vais faire, je vais juste la présenter à tout le monde avec mon ordinateur comme ça, puis on va espérer en fait que ça fonctionne. Si vous ne voyez pas l'écran, je vais en fait décrire un peu l'action. L'action, pas vraiment, c'est plus comme des images. Guillaume Morissette, ça c'est juste une présentation, fait que ça c'est des animaux qui se lèchent. Juste rapidement, ça c'est une photo de Tom Hanks. Je suis un humain, je suis né à Jonquière, Québec. Donc je suis francophone d'origine, mais j'ai fait un peu le passage vers l'anglais avec ma carrière. Je suis un auteur, j'ai écrit un roman qui s'appelle New Tab, qui est sorti l'an dernier. Je l'ai écrit en anglais, puis il est sorti avec Véhicule. New Tab, ça parle un peu d'une des dynamiques, il y a plusieurs choses qui arrivent, mais une des dynamiques, c'est vraiment comme un francophone qui aménage dans une maison anglophone, puis c'est un peu comme... ce qui arrive. J'ai été finaliste pour le prix Amazon du premier roman avec New Tab. Je suis aussi un collaborateur, j'ai fait comme des essais puis un paquet d'autres trucs pour Maison Neuve puis Little Brother, un paquet d'autres places. Puis je suis aussi le co-éditeur de Metatron qui est une toute petite presse. On a été établi en 2014. Puis ce qu'on fait en fait, on est basé à Montréal. Puis ce qu'on fait en fait, c'est qu'on publie beaucoup de jeunes auteurs montréalais. Fait que souvent on prend des auteurs qui sont sortis du programme Création littéraire de Concordia, de McGill, etc. Puis, en fait, ce qu'on trouvait, c'est qu'il y avait beaucoup d'auteurs autour de nous. Montréal, comme ville littéraire, il y a des infrastructures en français, il y a des infrastructures en anglais, donc il y a des magazines, maisons d'édition, etc. Mais au niveau des maisons d'édition à Montréal, il y avait Véhicule, il y en avait une couple d'autres, mais il n'y a pas vraiment de... Il y avait beaucoup d'auteurs autour de nous qu'on trouvait qui n'étaient pas publiés ou qui n'arrivaient pas à se trouver une place, ou encore, s'ils voulaient être publiés, il fallait qu'ils sortent de Montréal. Puis en fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'est leur donner... souvent, on travaille... Avec Metatron, on travaille plus au niveau des livrets que des livres. Donc, ça va être plus comme... C'est un peu comme des chapbooks, où est-ce que ça va être moins de 64 pages. Il n'y a pas vraiment de... c'est un livre qui n'est pas perfect bound, donc il n'y a pas d'échine pour le livre. Fait que c'est plus un peu comme des chapbooks qui sont, qu'on met un peu de plus d'effort au niveau de la production. On peut les vendre moins cher qu'un livre. Puis ce qu'on trouvait, en fait, c'est qu'on voulait donner à ces auteurs-là... c'est comme... pour eux, c'est en fait, ça leur donne une historique de publication. Ça leur permet de passer à des... quand ils vont approcher peut-être une plus grosse presse pour aller faire comme un livre ou peu importe, ben, ils ont déjà comme des armes un peu pour se vendre dans leur portfolio. Fait qu'on voulait publier ces auteurs-là qu'on trouvait qu'ils n'étaient pas publiés. Donc, basé à Montréal, j'ai deux anglophones, littérature, cool, j'ai fait tout. On fait beaucoup dans la littérature contemporaine, donc nous, on s'intéresse à parler de notre situation au présent. Donc, souvent, nos livres vont parler du choc. Il y a souvent beaucoup comme des relations entre ce qui est arrivé avec l'Internet, donc le choc entre le réel puis le digital, puis un paquet d'autres trucs. Ce que je vais parler aujourd'hui, beaucoup, ça va être la poésie dans un monde digital. Mon travail au niveau de ce que je parle aujourd'hui, en tant qu'auteur, je suis beaucoup plus comme je travaille beaucoup plus avec le roman, mais par contre, je travaille beaucoup avec des jeunes poètes au niveau de l'édition. Fait que c'est beaucoup plus en tant que co-éditeur de Mellotron que je vais parler que vraiment en tant qu'auteur. Ce que je voulais parler, c'est vraiment la poésie dans le monde numérique. Donc, ce qu'on a sur le web, c'est le langage idéal pour le web, c'est vraiment une combinaison de texte et d'images. Images, ça peut être comme des vidéos, ça peut être des GIFs animés, ça peut être comme un JPEG. Fait que ça peut être un peu n'importe quoi, mais le texte, c'est vraiment, c'est en fait le langage même, comment les pages web sont faites, c'est du texte. Donc, le texte est situé sur le web. Donc, la poésie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une substance ou une texture qui est hyper malléable. Donc, ce qu'on peut faire avec la poésie, c'est l'adapter à peu près n'importe quel type de plateforme. Ce qui est parfait, en fait, c'est parfait en fait pour le web. Ce que j'ai mis en gauche, en fait, on ne le verra pas beaucoup, mais c'est un projet de Ivéva Olenik. Elle habite à New York. Puis un projet sur Tumblr, où tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle va à des lectures. Puis souvent, quand il y a une citation qui va la frapper, comme par exemple une link, un pote qui va dire, ou même souvent, c'est peut-être une réponse à une question, peu importe, des trucs dans ce genre-là. Avoir comme le coude sur genre un coussin ou un peu n'importe quoi, puis elle va prendre une photo de ça, puis elle le pose sur Tumblr. Fait que ça donne des citations qui sont comme écrites à la main au lieu d'être écrites avec... puis qu'il y a comme une espèce de charme, juste du fait que c'est représenté avec, en couture au lieu d'être représenté en texte. Mais en fait, ce que ça donne, c'est des images que du texte à l'intérieur. Puis son projet est comme super populaire, où elle va obtenir des reblogs, un paquet d'autres trucs. Puis souvent, les auteurs sont comme... Ça, c'est une citation que j'ai entendue de tel auteur qui était comme à telle lecture. Donc, sur le web, en fait, les frontières sont un peu plus floues. On peut être en contact avec des auteurs d'Espagne, d'Angleterre, peu importe. On peut intégrer leurs perspectives. Ça peut informer, en fait, notre travail qu'on fait. Donc, on peut être en dialogue avec des auteurs d'un peu partout. Donc, on peut, en fait, ouvrir notre travail vers le monde. En fait, ce qui est intéressant aussi avec le web, c'est que, évidemment, la publication est beaucoup plus rapide. Puis un nom, en général, plus qu'un nom est répété, plus qu'il gagne du pouvoir. Donc, ça, c'est vrai de peu importe si c'est une citation dans le Global Mail, c'est une critique dans le Global Mail, ou encore si c'est quelqu'un qui fait juste mentionner sur Tumblr. La poésie sur le web, en fait, ça s'éloigne un petit peu de ceci, qui est le format classique. Donc, ça, c'est un poème de Shakespeare. Puis, on s'éloigne un peu du format classique, parce que le poème va être à l'intérieur d'un livre. Souvent, ça va être sous format juste d'un poème pur. Puis, on va se rapprocher un peu de ceci, qui est vraiment juste comme de la poésie qui est un peu plus lousse, où est-ce que ça peut être juste comme, souvent, ça peut être même, au lieu d'être un poème pur, ça va être peut-être comme quelques mots qui sont intéressants ensemble, qui ont encore une qualité poétique, mais qui ne sont pas nécessairement sous forme de poème. Le web aussi, on est dans l'ère des grandes citations. Donc, des sites comme Goodreads, comme Tumblr, comme Green Coat, ça permet de partager juste des citations. Ces citations-là peuvent avoir énormément de valeur au niveau du marketing d'un livre. Parce que une citation, souvent, ça peut représenter un point d'entrée qui a beaucoup de valeur. Parce qu'il permet, en quelques mots, peut-être de représenter « Ah, oh, c'est à propos de ça, ce livre-là ». Donc, par exemple, le livre qui est sorti en traduction de Nelly Arcan, il y a une traduction de Mélissa Bull qui a fait comme traduction des essais de Nelly Arcan, c'est sorti peut-être au mois de février. Il y a une amie qui me racontait que c'est juste ce qui, en fait, connaissait pas Nelly Arcan, n'était pas intéressée par son travail, savait pas, en fait, où commencer avec le travail de Nelly Arcan, c'est juste un nom qu'elle a entendu, mais elle savait pas pourquoi elle devrait s'intéresser à ça. Puis elle a juste vu une citation sur Twitter de quelqu'un qui faisait comme juste, qui a juste posé une. Que c'est juste comme partager une image, ou est-ce que c'est une citation du livre? Puis juste cette phrase-là, t'es comme, je comprends ça, j'aime ça, puis être intéressé par le livre. Donc le pouvoir de la citation, ça peut être un outil de marketing. Donc un pouvoir, ça peut avoir autant de citations. Une citation juste et appropriée, ça peut avoir autant de pouvoir même qu'une critique dans le New Yorker, ou juste par le fait que ça peut travailler, ça peut partager sur le web d'une manière surprenante. La poésie dans le monde digital. Ce qui arrive avec la poésie, c'est comme c'est une structure qui est malléable. Ça peut prendre différentes formes avec, selon le type de plateforme. Donc, quand on combine la poésie avec Twitter, on obtient quelque chose. Quand on combine la poésie avec YouTube, on obtient quelque chose d'autre. Dans le cas de la poésie avec Twitter, ça, c'est un projet de Mélissa Brodeur, qui est une poète qui est située en Californie. Mélissa, son truc, c'est qu'elle a vraiment comme une espèce de personnage poétique. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, peut-être Ariel Raines ou des poètes dans ce genre-là. Le personnage de Mélissa, c'est pas vraiment elle, mais en même temps, ça tire beaucoup de ses neuroses, ça tire beaucoup de son attitude poétique. Puis sur Twitter, c'est un peu une représentation de ce personnage-là. Donc, son identité poétique puis son identité sur Twitter est vraiment en lien. Ce que ça fait, c'est que si tu suis, par exemple, sur Twitter, Mélissa Brodeur, puis tu t'abonnes à son fil, elle utilise Twitter un peu en fait comme en surface. C'est facile d'accéder à comme son fil Twitter, c'est facile pour elle de diffuser son attitude poétique. Puis si tu apprécies cette attitude-là, tu peux être comme intéressé à dire « bon, peut-être que je vais aller chercher comme j'en veux plus de cet auteur-là, donc je vais m'intéresser à son livre. » Fait que ça, c'est le projet de Mélissa. Si on regarde sur YouTube, il y a les projets de Steve Rogenbach. Steve, c'est un auteur qui existe beaucoup sur Internet. Puis il a commencé, je pense que c'est en 2012, il a commencé à faire beaucoup de vidéos YouTube. Ses vidéos sont très frénétiques, donc il y a beaucoup de coupures. C'est vraiment comme un peu comme one take, best take, où est-ce que c'est filmé avec souvent avec son MacBook. Fait qu'il y a pas beaucoup de. C'est vraiment comme fait maison. Mais la qualité que ça a, c'est que tu comprends vraiment comme son énergie, puis son personnage, juste la manière dont ses vidéos sont présentées. Comme sont très frénétiques, elles sont un peu bonbons. Donc c'est vraiment comme si tu veux faire comprendre Steve Rogenbach à quelqu'un d'autre, tu présentes un de ses vidéos YouTube, ça devient comme un très bon émissaire de la personnalité de Steve. Donc après ça, tu peux peut-être t'intéresser à ses livres, tu peux peut-être t'intéresser avec ce qu'il fait un peu plus. Sur New Hive, c'est une plateforme, ça a commencé comme étant une plateforme pour les artistes web. Donc les gens qui travaillent avec les GIFs animés, les sites web comme étant comme un médium artistique. Puis New Hive, ça donnait juste comme un paquet d'outils. Puis il y a beaucoup de poètes qui ont commencé à s'intéresser à ça. New Hive, c'est entièrement gratuit, donc tu fais juste comme te servir des outils, tu fais juste te créer un compte, puis tu peux y aller. Puis il y a beaucoup de projets intéressants qui combinent en fait la poésie, l'audio, puis des GIFs animés ou encore des vidéos. Puis ça permet encore de diffuser la poésie d'une manière différente. Donc c'est un peu comme une approche multimédia, diffuser sa poésie, puis diffuser en fait son identité puis sa voix poétique. Ça, c'est un projet de Ashley Opine sur New Hive. Sur Instagram, on a commencé à voir ça un peu plus. Il y a un projet qui s'appelle Squash Moshi. C'est une auteure d'Australie, je pense. Ce qu'elle fait, en fait, c'est super simple. Tout ce qu'elle a, c'est elle va publier comme peut-être une image par jour, une image par deux jours. Tout ce que c'est un gradient de couleur avec un dessin super simple puis quelques mots. Puis juste ça, même si sa poésie est vraiment comme, c'est rien de sophistiqué, c'est vraiment comme une poésie qui est très simple, très abordable, puis elle est en train de, comme son fil est en train de gagner en popularité, puis c'est vraiment comme, il y a un intérêt pour ça. Puis tout ce que ça fait en fait, c'est que ça diffuse la poésie dans ton fil Instagram à chaque jour, ou presque. Sur SoundCloud, qui est un site de diffusion pour la musique, il y a quelqu'un comme Julian Huxtable qui est... Juliana fait elle habite à New York, elle fait des performances artistiques, elle est une DJ, puis elle fait aussi de la poésie. Puis ce qu'elle fait souvent, c'est qu'elle va intégrer la poésie au travers de ses sets, quand elle performe comme étant une DJ, donc souvent elle va mettre comme de la musique électronique, puis elle va comme lire la poésie par-dessus, puis ça donne comme une espèce d'aspect à peu près spoken word par-dessus, la musique souvent qui est pas, c'est un espace qui est pas souvent utilisé pour la poésie, comme souvent ça va comme... faire une présentation, faire une performance dans un club, mais c'est pas souvent un espace que tu vas associer avec la poésie. Donc, ça permet un espace pour la poésie qui est là. Puis, elle va poster ses mix qu'elle va faire en direct, souvent elle les enregistre, puis elle va les poster sur SoundCloud. Donc, tu peux les écouter plus tard. Ce qui arrive, donc, la poésie dans un monde digital, ce qui arrive, c'est que l'auditoire est pas toujours au courant qu'il consomme de la poésie. Donc, il y a plusieurs types de conscience comme étant un auditoire, à l'intérieur de l'auditoire. Donc, l'objectif de Mellowman, qui est quand tu fais du travail en ligne, mais souvent c'est comme du travail que tu vas présenter gratuitement, mais l'objectif de Mellowman, qui est d'aller chercher des nouveaux lecteurs. Donc, souvent, il y a plusieurs niveaux d'engagement, puis on utilise vraiment le web pour aller, en fait, à la pêche aux lecteurs, pour aller chercher comme des nouveaux lecteurs qui vont comme commencer à vraiment, j'ai aucune idée de cette personne-là, je suis complètement addicté à cette personne-là. Donc, le premier stage, c'est Aware, qui est je suis au courant de cette personne-là, c'est-à-dire, je suis tombé sur peut-être le fil Twitter de cette personne-là. J'ai vu un tweet qui était comme, je trouve ça drôle, je trouve ça intéressant, ou ça intéresse mon imagination d'une façon quelconque, mais j'ai aucune idée en fait que cette personne-là est un poète, j'ai aucune idée que c'est dans un contexte poétique, ou j'ai aucune idée en fait que cette personne-là est un auteur, je trouve juste ce seul truc-là que j'ai vu, je trouve ça intéressant. Donc ça c'est aware, je suis juste vaguement conscient. Activated, c'est par exemple, je comprends que cette personne-là est un auteur ou un écrivain, je m'abonne peut-être à son fil, Twitter, peu importe sur quels réseaux sociaux que j'ai trouvé cette personne-là. Puis je comprends un peu mieux que cette personne-là est un poète, puis souvent qu'elle a un livre qui existe sur lequel je pourrais approfondir mes connaissances à propos de son travail. Ensuite, on a Addicted, qui est... je ne suis pas juste abonné, c'est comme je me tiens activement au courant de, des nouveautés sur, par exemple, est-ce que cette personne-là fait une lecture bientôt? Est-ce que cette personne-là a des nouveaux systèmes sur, que je pourrais consommer en ligne? Puis je considère faire l'achat du livre, donc c'est vraiment comme... Je vais aller regarder ça sur Amazon, puis je vais avoir beaucoup plus d'informations sur lesquelles comprendre cette personne-là, puis sur laquelle donner un contexte, en fait, à cette présentation-là. Puis le dernier, c'est Amplified. Amplified, c'est comme le statut en bas, au-dessus de Addicted, en fait, où est-ce que, non seulement, c'est comme j'apprécie beaucoup le travail de cette personne-là, je participe activement à la présence web de cette personne-là en partageant ses items. Donc, je sais pas, Steve Orenbach a une nouvelle vidéo, mais je le partage sur mes réseaux sociaux. Puis je permets à d'autres personnes de... donc, en fait, le travail de cette personne-là en ligne, ça devient une part de mon identité dans le sens où je déclare que, comme par exemple, porter, je sais pas, une pin de, ou un t-shirt de musique de groupe, un groupe de musique, ça peut permettre, en fait, de... ça devient une question identitaire. Mais c'est un peu la même chose, parce que je partage une vidéo de Steve Orenbach. Je déclare que okay, c'est un type d'item que j'apprécie beaucoup, puis je pense que j'aimerais trouver d'autres gens comme moi qui aiment ça. En fait, je pense que T.L. Cowan, dans le début de journée, parlait un petit peu plus de ça. Ce qui arrive en ligne, c'est qu'il y a souvent le lecteur accidentel, qui est en fait un lecteur qui souvent peut consommer de la poésie sans même savoir que c'est de la poésie. Il faut respecter cet auditeur, ce lecteur-là, dans le sens où il faut comprendre qu'il y a des gens qui vont venir... avec les réseaux sociaux, tu peux avoir comme des mélanges incroyables qui sont comme, tu n'aurais jamais pensé que ça aurait pu arriver. Fait qu'il faut respecter en fait ce hasard-là et ce chaos-là. En fait, ce qui arrive avec le monde numérique, c'est que souvent ça peut changer le modèle traditionnel. Le modèle traditionnel, c'est un peu un auteur qui a un manuscrit, qui va approcher comme peut-être un éditeur. OK, l'éditeur, comme j'aime ça, on va en faire un livre. Si on a fait un livre, ben, l'éditeur va comme partager ses... c'est les nouveaux livres qu'ils publient à des médias, donc les journaux vont essayer de les envoyer pour avoir des critiques. Puis les journaux, peu importe, les médias, etc., vont comme faire des recommandations. Puis c'est ces recommandations-là, en fait, que les lecteurs vont considérer en se disant « OK, ce livre-là, ça tient une bonne critique, fait que je vais aller comme, je vais m'intéresser à cet auteur-là. » Avec les réseaux sociaux, ben, c'est possible de faire... donc c'est un modèle qui est un peu... ça, c'est le modèle classique, où est-ce que c'est un peu « top-down ». Puis le modèle avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux faire bottom-up, c'est-à-dire que tu peux t'adresser directement au lecteur. Ta présence en ligne, ça peut devenir un peu une île, où est-ce que ton île peut avoir certaines formes de gravité, où est-ce que les lecteurs vont comme réussir à les trouver en ligne au lieu de parler avec, au lieu du modèle, parce que faut que tu passes au travers de... c'est une relation qui est beaucoup plus directe au lieu du modèle, faut que tu passes au travers de ton éditeur, puis ensuite des médias, puis ensuite, etc. Donc, ça, c'est une photo de... j'ai tapé genre « young poet » sur Internet, puis ça m'a donné comme un jeune qui porte un smoking. J'étais comme « OK, ça va marcher, je vais me mettre à l'intérieur. » Quels sont les jeunes poètes? Comme je racontais, je travaille beaucoup avec des jeunes auteurs anglophones. Puis ce que je remarque d'eux quand je travaille avec eux, c'est que leurs tendances sont pas vraiment comme... souvent, c'est pas des tendances qui sont hyper académiques, dans le sens où ce qui les intéresse, c'est vraiment beaucoup plus faire partie de la culture web. Donc, ce qu'ils veulent, c'est divertir, c'est faire du sens, c'est s'exprimer avec une certaine sincérité. C'est participer à la culture web, c'est aussi trouver leur communauté. Donc, trouver des gens comme eux pour trouver aussi d'autres auteurs que je comprends ton travail puis tu comprends bien. Fait qu'en termes d'objectifs, ça me fait penser un peu au travail de Frank O'Hara. O'Hara, j'ai une citation de sa page Wikipédia. O'Hara's poetry is personal in tone and has been described as reading like entries in a diary. Critic Mark Doty has said, O'Hara's poetry is urban, ironic, genuinely celebratory, and often wildly funny, containing material alien to the academic verse. O'Hara's writing sought to capture in his poetry the immediacy of life, feeling that poetry should be between two persons instead of between two pages. Donc, promouvoir un nouvel auteur. Tout ce que ça dit, en fait, le préambule que j'ai mis, ça c'est en fait un graphique qui montre comme les ventes de livres qui sont en train de descendre. Donc, la plupart des livres sont présentés souvent de manière identique au lecteur. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de modèle dans lequel tout le monde va à peu près s'enregistrer. Puis souvent, ça va être comme des blurbs, donc des citations à l'extérieur du book qui sont souvent, maintenant, sont inefficaces parce que tout le monde fait ça. Donc, souvent, ça va être des hyperboles pour essayer de vendre le livre. C'est le meilleur livre depuis, peu importe. Souvent, ça n'a pas toujours la même efficacité, souvent parce que c'est une approche qui a été tellement essayée que ça a comme plus de pouvoir. Donc, ce qu'on recommande, en fait, c'est de faire n'importe quoi différent. Avec le web, ce que ça donne, c'est... ce qu'on peut faire pour promouvoir un livre, c'est... en fait, le web, ça peut devenir comme un million d'outils pour diffuser de la poésie. Fait qu'il y a divers projets qu'on peut essayer sur diverses permutations. Le projet, ça, c'est un projet que j'ai vu comme... Il y a un putain qui m'a envoyé ça. Mais ça pourrait, c'est un projet, en fait, pour l'art visuel puis le dessin. Ça pourrait s'appliquer à la poésie, un livre, n'importe quoi. C'est un projet d'une dessinatrice qui s'appelle Tara Jane. Puis ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle a juste commencé à dessiner à propos de... elle voulait faire comme un projet qu'elle allait faire une fois par jour pendant 100 jours. Puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est inspirée... Elle habite à New York en ce moment, mais elle vient de Terre-Neuve, originellement. Puis elle a décidé de faire comme un hommage à Terre-Neuve. Donc, la plupart des dessins qu'elle partageait sur les réseaux sociaux, c'est il est tout en lien avec Terre-Neuve. Donc, c'était celui que j'ai en ce moment, c'est comme sur les, le puffin, un petit oiseau, bon, blablabla. Fait qu'il y aurait moyen d'adapter ça très facilement, faire le même projet simplement une fois par jour pendant 100 jours. Donc, si c'est par exemple une citation d'un certain livre, ben, peut-être 100 citations du même livre pendant 100 jours. Puis juste avoir comme une présence qui est constante, ça peut aider à accumuler du momentum. Il y a un projet de Noah Eli Gordon, qui est un auteur qui habite à New York, où est-ce qu'il a décidé juste de faire une expérience de vendre son livre comme Pay What You Can, qui en fait paye ce que tu veux. La seule contrainte, c'était que... il y avait 5 $ juste pour t'envoyer le livre physiquement par la poste. Mais sinon, tu peux payer, tu peux demander comme, si tu veux, comme, obtenir une copie gratuite, mais tu fais juste rentrer zéro, tu payes les coûts pour te l'envoyer. Puis c'est tout, tu vas obtenir ta copie par la poste. L'objectif, c'est qu'en fait, derrière ça, il s'était rendu compte que, OK, on a un poète dans lequel on croit énormément, on pense que son livre est... intéressant et mérite plus d'attention. Seulement, si on sert juste des canaux traditionnels, on pense que ce livre-là va juste comme tomber dans les cracks. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est juste une espèce de modèle alternatif. Puis l'objectif, c'était d'obtenir de la publicité par le livre via obtenir de la publicité simplement pour le modèle d'affaires. Donc, ça a fonctionné. C'est-à-dire que il y a beaucoup comme de blogs qui ont décidé de parler. Il y a un livre que tu peux obtenir, Pay What You Can, c'est un nouvel essai, ils veulent juste voir ce qui va arriver. Puis ils se trouvaient à parler du livre simplement parce qu'ils se trouvaient à parler du modèle d'affaires. Fait que c'est un peu le même modèle en fait que Radiohead, il y a utilisé une couple d'années pour, je pense que c'était In Rainbows, parce que c'était juste paye ce que tu veux puis tu peux obtenir une copie. Il y a Pay With A Tweet, qui est en fait, Pay With A Tweet, ça te permet de, tu peux faire comme des campagnes sur les réseaux sociaux, puis en échange de partager sur tes réseaux sociaux. Par exemple, en ce moment, je lis le livre d'un tel, ça donne comme un item gratuit. Donc, Pay With A Tweet pour les livres, souvent, on va envoyer comme, comment ça fonctionne, ça va être, tu peux obtenir comme une copie digitale, comme par exemple un PDF, un EPUB ou un e-book sous ce format-là, simplement pour partager sur tes réseaux sociaux, ça m'intéresse le livre d'un tel. Donc, tu payes avec un tweet au lieu de payer en argent. Puis cette présence-là sur les réseaux sociaux peut avoir de la valeur. Si on continue... le remix communautaire, il y a l'auteur Taolin qui est situé à New York. Il y a une couple de semaines, il a fait, en fait, c'était le mois d'avril, peu importe. Il a fait un projet où est-ce que il a découvert dans. Taolin, il fait beaucoup plus dans le roman aujourd'hui, mais il avait fait une collection de poésie une couple d'années. Puis, il avait découvert que dans un de ses fichiers qu'il a découvert qui datait une couple d'années, c'est un fichier Word. Que je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il avait essayé de transformer sa première collection de poésie en des haïkus. Puis il a juste trouvé comme un fichier Word qui datait genre de 15 000 ans, où est-ce que c'est comme c'était certaines lignes de son premier livre, qui était comme juste traduit sous format haïku, puis ça donne quelque chose qui est comme complètement ridicule, qui n'a aucun sens par soi-même. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste comme commencé à, sur Twitter, il a juste commencé à diffuser les différents haïkus de ce projet-là, qui était comme un projet qu'il avait abandonné, qui n'était pas fait pour la publication. Mais ça a bien fonctionné, puis souvent, il y a des gens qui ont commencé à, comme, ça donnait un petit quelque chose, ça donnait comme un espèce de remix communautaire, où est-ce que les gens allaient prendre comme des lignes de son livre, puis le transformer en format haïku, puis ça donne comme quelque chose de complètement ridicule. Fait que ça a bien fonctionné au niveau de créer du mouvement, créer de la publicité. C'est une photo de Jim Carrey avec un ours, aucune idée pourquoi. Fait qu'il y a aussi des trucs comme par exemple des lancements en ligne, des clavardages en ligne en direct avec Ontar. Donc par exemple, si on lance un tel roman, on est sur Twitter, vous pouvez poser des questions. Puis des gifs animés, c'est un format qui est vraiment comme sous-utilisé dans le livre pour publiciser en fait. L'identité d'un livre, de quoi ça parle, qu'est-ce que... donc, utiliser, être capable d'expliquer un livre d'une façon autre que simplement par une critique ou par des mots. Get in the game. Donc, c'est Michael Jordan qui fait un dunk. Dernière slide. Le web, c'est des milliers d'outils pour aller chercher des nouveaux lecteurs. En ignorant ces types de plateformes-là, bon, on ignore leurs possibilités. Puis un projet sur New Hive, Twitter ou Vimeo, pour moi, ça peut posséder autant de valeur artistique qu'un poème. Donc, c'est vraiment juste comme aller chercher ces outils-là, puis aller chercher leurs possibilités. Donc, je pense que ça va être tout. Est-ce que...
Wow!
Wow! C'est bon? Slam dunk! Slam dunk! Attends un peu!
Ouais, c'est...
Ça marche. Wow. On va partager.
Je trouve ça quand même un peu. Je sais pas, il y a pas quelque chose d'inquiétant en fait de tourner aussi résolument vers le marketing. Est-ce que ce serait ça l'autre langue poétique?
C'est pas nécessairement une... ouais, peut-être en fait. Mais c'est pas nécessairement une question de marketing, une question d'aller chercher des lecteurs. Donc, en fait, ça peut venir d'une question de... je veux simplement partager mon identité poétique avec plus de gens.
Est-ce que ça ne vient pas affecter la forme, d'une certaine façon? Est-ce qu'on ne fait pas des poèmes pour
le... Mais quand tu es assez populaire, tu es au-dessus de la critique. ça va bien. Pendant un bout. Attendre après que tu sois mort pour revisiter. Mais c'est vrai que ça fait ça, là, tu sais, où... Il y a un état, à un moment donné, dans la médiasphère, tu sais, quand tu arrives à une certaine masse critique, tu t'extrais du milieu dans lequel tu fonctionnes.
C'est parce que
Robert Lepage, c'est un exemple, par exemple. Il pourrait faire n'importe quoi, il va vendre des billets.
C'est devenir viral pour avoir l'autonomie artistique. Je sais pas,
ça aide beaucoup.
Je suis vraiment surpris. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Karim.
Moi, j'avais une question en tête... Mais je me demandais pourquoi, en fait, si c'est une possibilité, par exemple, que ta maison d'édition édite des auteurs de langue française, ou c'est une espèce de choix de ligne éditoriale que d'aller du côté anglophone. Et puis, l'autre question, c'est finalement à partir de cette matière là, qui est un petit peu... qui est en mouvement, qui bouge beaucoup, quel est le genre de travail sur les textes que toi tu fais comme éditeur?
Pour ce qui est de la question de la langue francophone, nous on a fait, Sanctuaire en fait pour la première fois, un prix Metatron, qui était au mois de mars, je crois. Puis c'était en fait, on voulait juste, jusqu'à maintenant on a travaillé avec, on allait approcher quelqu'un en disant on aimerait ça faire comme un livret avec toi, puis on a décidé de faire l'opposé qui était juste comme on va demander autant de manuscrits qu'on peut recevoir, puis on va juste faire un prix littéraire où est-ce qu'on va comme donner une somme au gagnant puis on va publier le manuscrit qu'on aime. On voulait juste voir ce qui arrive si on fait juste ouvrir les portes. Un truc qui nous a vraiment pris par surprise, c'est qu'on a reçu des manuscrits en français. C'est toujours quelque chose qui nous... pour l'instant, on avait vraiment priorisé la communauté anglophone. C'est vraiment à la communauté anglophone qu'on pensait qu'on parlait. Puis on a été surpris de voir qu'on a reçu des manuscrits en français. Puis ça a été vraiment comme une question intéressante. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est pour l'instant, pour nous, la communauté à laquelle on vend nos livres, c'est vraiment, on sentait vraiment que c'est la communauté anglophone à Montréal puis la communauté anglophone sur Internet. de, pour nous, publier un manuscrit en français, il faudrait comme réinventer le public qu'on a. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse. Seulement, on n'était pas prêt à le faire pour n'importe quel manuscrit. Il faudrait vraiment que ce soit un manuscrit qui... OK, si, par exemple, on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire, ou encore, on croit vraiment à ce manuscrit-là, on sent que ça va être quelque chose que ça pourrait ouvrir des portes d'une façon super intéressante, mais en même temps, ça va demander beaucoup d'efforts de notre côté, juste parce que ça va être une question de nous publiciser d'une manière qui est complètement différente. Ta deuxième question, c'était au niveau de, du travail avec les textes. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'il y a deux trucs. Pour les livrets puis les livres qu'on va faire, moi, je vais travailler comme éditeur avec les poètes. Souvent, c'est des poètes qui sont assez jeunes, ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience au niveau de... ils vont être comme peut-être mi-vingtaine, ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience au niveau de leur... ça va être la première fois qu'ils vont travailler sous forme de livre. Donc, souvent, je vais être là simplement comme un peu comme un grand frère, parce que je vais leur donner un peu d'expérience. Tu devrais faire ça, mais ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Fait que ça leur donne un peu de perspective. Puis évidemment, je travaille avec eux pour améliorer leur poème, etc. Puis au niveau des réseaux sociaux, ben, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne des ressources, mais on leur donne pas nécessairement de limitations, parce que si tu as le goût de travailler avec ça, vas-y faire, on n'a aucune barrière, on peut juste te donner comme des pistes. Ça va être tout. Fait qu'il n'y a aucune édition au niveau des réseaux sociaux, mais il y a l'édition au niveau des textes. Est-ce que ça répond à ta question?
C'est assez précis.
On a qualifié Stephanie Bolster tout à l'heure de poète, figurative poet. Et dans le cas d'Erin Morey, comment est-ce qu'on la qualifie? Ça, c'est la première question. J'ai beaucoup lu et travaillé sur le... Mais est-ce qu'il y a une simple qualification comme...
Ben, ce serait plutôt tautologique, là. Erin, c'est Erin. Puis, tu sais, c'est vraiment une langue singulière avec un espèce de mélange de théorie, de philosophie, de joke, beaucoup de légumes. Puis, tu sais, il y a quelque chose chez elle, c'est une énergie, en fait. C'est comme si c'était une force, une forme d'énergie, en quelque part. Pardon? Un phénomène, oui, c'est ça. C'est un autre. C'est quelqu'un qui crée un... C'est pas facile à... Puis tu sais, moi au début, je pensais que c'était un auteur plus théorique que ça. Qui aurait pu... Tu sais, des auteurs, des fois, c'est comme calculer leur usage d'une certaine idée. Puis chez Erin, l'idée, elle est toujours soumise à l'impact de la langue, puis de l'expérience aussi, là, parce que ses poèmes peuvent sembler abstraits, mais c'est complètement groundé. Puis c'est pour ça aussi que j'ai écrit la postface comme ça, dans des expériences très, très incarnées, tu sais. Puis même quand tu parlais tout à l'heure de Stephanie, moi je la connais à cause de... Je mangeais de la crème glacée avec elle, puis je suis allé chez elle. Puis, tu sais, je le connais Patrick aussi, fait que je suis plus capable de lire ses poèmes d'une façon... Pour moi, il raconte toujours ces histoires-là. Puis tantôt, quand tu as souligné, par exemple, qu'il y avait peut-être une relation entre la famille Leroux puis la famille Lemieux, là, je trouve qu'il y a vraiment une belle piste interprétative, un beau doute qui peut mener à des interprétations qui vont être plus proches du corps du poème. Puis même si le biographiste, ça a été un peu discrédité dans les cercles académiques, mais comme l'histoire d'ailleurs, c'est des forces qu'on peut ramener dans l'écriture, puis dans la langue, puis dans le questionnement, tu sais. Puis fait qu'enfin, n'importe quelle lecture d'un poème, c'est une narration en quelque part, tu sais. Tu narrativises quelque chose qui n'est pas reçu comme ça, qui est plus reçu comme un champ de particules presque, ou un champ de force, tu sais. Fait que de jouer le jeu de répondre par une langue qui est capable vraiment d'entrer en dialogue comme des corps qui s'orbitent, tu sais, moi, c'est ça qui m'intéresse plus. Puis bon, fait qu'Erin, comment la qualifier?
J'avais une autre question aussi, et c'est la différence entre traduire... un texte de Stephanie et un texte d'Erin, étant donné que Erin est déjà traductrice et il y a beaucoup de... La question de traduction anime déjà le texte.
Ouais.
Est déjà à l'intérieur du texte. Alors, est-ce que ça
ben
change
oui, Ben, c'est sûr que c'est deux... Moi, c'était la première traduction que je faisais d'un recueil au complet Whitestone, là, Pierre Blanche. Et puis, là, il y a la gêne, tu sais, des premières fois, comme une espèce volonté de créer l'objet parfait, tu sais, qui répond parfaitement à l'objet original, puis tout ça. Fait que mon expérience avec Stéphanie, ensuite je l'ai retraduit pour, dans un autre contexte, mais j'ai pas poursuivi, tu sais, avec Two Bowls of Milk ou Pavilion, là, ou, mais je l'ai toujours lu. Puis moi, c'était, je sais pas, pour moi, c'était, il y avait une question plus. Moi, je pense que j'ai employé la même méthode qui est du close reading, tu sais, puis aussi, mais moi, j'ai tendance à traduire très proche du son. C'est comme, j'ai pas peur de l'allitération, par exemple, en français. Puis en français, on condamne toujours l'allitération comme étant un effet anglicisant. Puis moi, je trouve au contraire que la première loyauté que tu dois avoir à un poème, c'est cette surface linguistique-là. Tu dois retrouver le sens, mais une fois que tu as trouvé la cadence qui t'y mène. Puis je te dirais que moi, j'ai employé la même méthode, mais avec peut-être que j'avais réussi à perfectionner pour arriver avec Aaron, qui quand même, il y a un niveau de complexité puis de flou dans ce qu'elle fait, qui est plus, la langue de Stéphanie, elle est plus simple, mais sa subtilité, elle est structurelle, tu sais, en quelque part. Parce que beaucoup de ses poèmes, c'est comme des énigmes, des enchaînements d'images qui ouvrent sur une formule. Puis la formule, ça devient la clé pour comme faire, pour ouvrir le reste. Mais le poème n'est pas bâti sur l'hypothèse de cette clé-là. Il est bâti sur son rythme, puis comment cette maxime-là se place à l'intérieur de ce réseau à la fois de rythme et d'image. Tandis que Sharon, tu sais, c'est comme un gros party de je pense que ce livre-là, il est fait de plein de petits livres. Puis chaque livre, il y avait une clé différente. Comme moi, en fait, là, ce qui m'a vraiment enthousiasmé, c'est qu'elle écrivait des poèmes sur des patates, puis de l'ail, puis des betteraves, puis des chiens d'eau, puis ça veut comme dire quelque chose, mais pas tout à fait. Puis tu sais, des fois, il y avait des choses, ça marchait pas, même dans l'original, puis elle disait, tu vois, je sais, elle dit, je sais que c'est une erreur, mais c'est ça. Puis là, t'étais comme pogné avec quelque chose qui a pas de solution, puis il faut, en quelque part, que tu laisses ça libre de courir. Puis c'est vraiment le fun, parce que moi, j'ai traduit souvent Aaron, même, je faisais des traductions, comme je disais à Samuel, ça c'est drôle. T'sais, on a le poète lauréat du Canada, là. Puis c'était Fred Waugh, qui est un poète expérimental, qui m'a appris pourquoi les Motel 6 s'appellent un, parce que ça coûtait 6$ pour vrai. Mais Fred, il a comme 70 ans à peu près, puis il est enthousiasmé pour tout ce qui est expérimental. Fait que là, le poète lauréat du Canada, il faisait juste me faire traduire des affaires semi-intraduisibles. C'était super le fun, c'est comme un gros party de, à chaque fois c'était un puzzle, puis tu te dis, ben, c'est comme des poèmes, tu sais même pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais tu sais qu'il y a quelque chose là. Puis je te dis pas que c'est ça, Erin, parce que le sous-texte, tu sais, puis la langue maternelle, l'eau, tu sens qu'il y a quelque chose qui l'habite, puis assez c'est où la frontière de son livre, puis elle trace jusqu'à temps qu'elle atteigne ce lieu-là. Puis moi, pour moi, c'est un livre de transition aussi chez elle, parce qu'après, elle est devenue... Avant Petit Théâtre, c'est comme Frame of the Book, par exemple. Là. Ça, c'est très Pessoa-esque. Là. Frame of the Book, c'est vraiment, c'est basé sur certains des hétéronymes de Pessoa. Désolé, tantôt, je pensais pas. Fait que tout ce qui précède, c'est plus près de la théorie aussi, puis d'un corpus théorique. Mais vu que c'est pas un universitaire aussi, elle ne s'inféode pas à ces idées-là. T'sais. Elle les absorbe, puis elle les remet en narration, tu sais, par exemple, en lisant une nouvelle sur un tanker qui vire de bord, puis que les oiseaux sont tout noirs. Puis moi, j'avais le privilège d'y parler, ce qui était le cas aussi avec Bolster, ce qui n'est pas le cas quand tu traduis, comme j'ai traduit Auguste Blanqui vers l'anglais, un traité de cosmogonie spéculative écrit en prison sur la pluralité des mondes. Lui, je peux pas le questionner, tu sais. Fait que ce qui n'a pas de sens, tu es obligé de trouver ta limite toi-même par rapport à ton dialogue avec ces œuvres-là. C'est très différent que de pouvoir parler à quelqu'un. Michael Ondaatje ne parlait pas beaucoup. C'était bien difficile de lui poser des questions ou quoi que ce soit. Il écrit des emails de 3 mots. Tu sais, puis Charles Simmons, lui, était super cool. Il m'écrivait sur son BlackBerry. Tu sais, puis à chaque fois, c'est un rapport différent. Quand tu as accès au poète, c'est autre chose que quand... Je sais pas, tu retraduis Shakespeare ou t'es pogné avec quelqu'un d'autre qui a les droits de te le faire faire comme un dramaturge, par exemple, ou quelque chose comme ça. Fait qu'il y a une politique aussi derrière ça. Puis pour moi, ça, avec Erin, j'allais manger avec elle, tu sais, elle m'invitait. Puis là, on discutait, ben, d'où est-ce que ça vient? Puis là, elle m'a raconté cette histoire de Tarzan, puis tout ça. Puis pour moi, toutes ces narrations-là, ils finissent par faire partie du livre. Puis quelqu'un qui arrive au bout, puis qui est peut-être un peu... Je me rappelle les critiques dans... Je vais arrêter de parler. Les critiques dans Le Devoir, où est-ce qu'il disait « Ah, c'est un livre qui est tellement ouvert qu'on ne comprend pas. » Mais pourtant, moi, je pense qu'il est tout à fait structuré, le livre. Il est tout à fait présent. Puis ça, tu te rends post-face, puis tu recircules à travers. Je pense qu'il y a assez de pistes pour qu'il y ait une cohérence. Puis après, si tu n'aimes pas cette tune-là, si tu n'aimes pas cette musique-là, qui est Seth Darren, ben, too bad. Pour moi, c'est un grand livre de poésie québécoise. Bon, grand livre, on aime ça dire ça, là, mais c'est un livre qui est vivant. Puis c'est ça qui m'intéresse, moi, dans le rapport à la littérature, c'est le rapport à la lecture et à l'écriture. Pas à la théorie de ce qu'un livre peut être, mais de ce qui est. C'est dans une expérience vécue. Là. Puis c'est ça, la phénoménologie de l'ouvrage.
Ce que j'ai aimé dans ton lecture, c'est comme une rencontre avec Aaron, c'est la même, ouais. La même structure.
Puis Aaron, elle mesure 2 mètres.
La dernière fois que je l'ai rencontrée, elle était avec 3 Galiciennes comme les mousquetaires à côté.
Ouais. On a écrit une pièce de théâtre sur le chou, entre autres, puis qu'elle joue à lire en lecture avec des marionnettes. Oui, que j'ai traduit celui.
Le vidéo poème, c'est les meilleurs.
Oui, c'est beau. Ah, la patate, c'est pas moi, ça, c'est l'autre. Moi, j'ai fait le borscht.
C'est la patate avec la petite fille, là.
Oui, c'est très beau, ça, les patates filmées. Là. C'est très sous-estimé comme sujet poétique, les patates.
Okay. Je l'ai romancier.
En fait, j'avais une question un peu indécente, mais je ne sais plus avec qui je parlais de ça à la pause. Les traductions et les échanges, ce qui est intéressant, c'est quand ça devient concret, puis quand c'est là pour longtemps. Et la question à Danielle que j'avais, c'est... Tu parlais en début de communication du fait qu'il y avait eu peu de ventes du livre. Quel est le public? Il y en a combien? Combien vous en vendez des recueils d'Erin, par exemple? Et puis, la deuxième question que j'avais, c'est que je trouve ça très intéressant de... Et évidemment, en tant que lecteur de poésie, je défends tout à fait les petits lecteurs, mais... je trouve ça très intéressant la façon dont tu parles des trouées de non-sens finalement qui accompagnent le texte et avec lesquels le lecteur doit un peu se
négocier
ouais. et en même temps te parler dans ta communication du fait que le traducteur avait une loyauté de chien et je me demandais bon, il y a le non-sens d'un côté et puis il y a les la technique de la traduction qui a ses imperfections aussi. Est-ce qu'il y a des moments, par exemple, dans cette traduction en particulier, où vraiment, il y a juste cette impression qu'il y a un morceau qui n'arrive pas à se transposer d'une langue à l'autre? Et est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de deux exemples? Il y a quelque chose qui s'arrache là, du texte.
Non, moi, je suis assez confiant que la traduction... Tu sais, vu que j'ai eu le privilège aussi de dialoguer beaucoup avec Aaron, quand j'en avais besoin, j'ai réussi, tu sais, comme à pousser l'analyse, mettons, la discussion avec elle, assez loin pour que ça devienne satisfaisant au niveau du résultat sur la page. Je vais te dire, l'affaire qui m'a le plus dérangé dans le livre, c'était sa page colorée. Parce que moi, j'ai designé le livre aussi avec un graphiste, puis je le fais tout le temps. Quand je fais les traductions, je traduis la forme du livre aussi. Fait que quand je parlais de la... Par exemple, que le livre, il y a beaucoup de vert dedans, on a choisi la couleur en fonction de ça. On a choisi le format aussi. On voulait que ça soit comme un peu un almanach du paysan. C'est d'où la couverture qui est un peu dépouillée avec des images anthropologiques. Puis j'arrive à la réponse, en fait, c'est que s'il y avait une page qui me dérangeait vraiment au niveau graphique, ça, c'est la page d'où je parle qui est recouverte par un rideau de pluie. Puis là, ils ont fait un carré en niveau de gris avec du blanc. C'est ça qui m'a le plus dérangé dans le livre. Fait que nous autres, on n'arrêtait pas de... Parce qu'on le proposait aussi à Erin avec Baptiste Alchourin, le graphiste. Fait qu'on a fini par faire une page avec des fines rayures grises verticales qui vont du haut en bas. Ça a été le plus grave problème de traduction pour moi. Au niveau de la physicalité... Au niveau de la physicalité... L'existence physique de l'objet livre, puis sa relation au contenu, puis sa relation à l'original. Parce que je disais, est-ce que le carré, c'est important, Erin? Puis elle-même, Erin, elle commande ses maquettes chez Anansi. Fait que je sais que c'est une réponse un peu farfelue, mais c'était ça qui m'a le plus dérangé de tout le livre. Puis ensuite, le fait qu'on ne pouvait pas, on était obligé d'imprimer en numérique. Puis pas, c'est de l'indigo, là, un nouveau processus qui est mieux, mais c'est quand même moins durable. Puis moi, c'est ça l'idée de vouloir comme manger le livre, comme la baleine, avaler le sujet. C'est que je veux que ça aille jusqu'au fait que le livre se transforme au niveau physique quand il va circuler dans l'autre réseau, l'autre communauté, l'autre réseau de sens. Puis après, c'est l'éditeur qui est le marketeur. T'sais, dans ce cas-ci, moi, je veux dire, en plus, je suis la deuxième tête qui pousse sur Erin pendant une période X que ce livre-là circule. T'sais, fait que le rapport, en plus, on a lu ensemble, on a essayé le plus possible de faire exister le livre dans les réseaux qui s'offrent à nous, mais on dirait qu'il y a un problème avec la réception des traductions au Québec quand c'est pas du romanesque. Parce que le romanesque, justement, le contenu finit par avaler l'existence littéraire de l'objet. Ça devient une histoire sur quelque chose. Tu sais, moi, quand je parle d'un livre constitué autour de certains légumes, de bottes, de boue et de chiens transparents, c'est plus dur à vendre aussi, sauf s'il avait créé une mystique autour d'Erin Mouré qui existe, mais qui aurait fallu que ce soit assez excitante pour un Québécois francophone qui ne sait même pas c'est qui, même si c'est probablement une des poètes les plus actives internationalement qui sort de Montréal. Comme à l'époque où Anne Carson était ici, c'est la poète la plus vendue au monde. Puis elle enseignait la littérature ancienne, les classiques à McGill. Je veux dire, Montréal a engendré deux des poètes les plus vendus au monde, d'ailleurs. Leonard Cohen et Anne Carson, tu sais, sont up there with Neruda, là. Tu sais, puis c'est particulier quand même, parce que la plupart du monde ne savait même pas qu'Anne Carson était ici. Elle était tout de suite ailleurs à cause de la langue dans laquelle elle écrivait, d'où c'était diffusé, etc. Puis il y a des paradoxes là-dedans qui sont intéressants. Maintenant, elle est retournée aux États-Unis, là, mais... Je me souviens, j'étais à New York à l'école de cinéma, puis il y avait des pyramides de livres d'Anne Carson. Je l'avais vu une fois sur l'avenue du Parc avec ses étudiants en train de parler grec. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Combien d'exemplaires?
Ah, ben, je peux te dire l'affaire la plus étonnante. C'est Michael Ondaatje, genre le Boréal, il publie en français avec un titre insupportant. Ah non, c'était pas super. C'était L'homme flambé, là, d'English Patient, ça a vendu 80 000 copies en français, genre. Comme La petite fille qui aimait trop les allumettes, ou c'est beaucoup, tu sais, au Québec. Fait que moi, j'ai traduit L'homme aux sept orteils, qui est comme un western australien, puis qui est une pièce de théâtre en vers. Puis je pense que ça a vendu 95 copies. Puis c'est Michael Ondaatje, là, c'est genre, ils vont lui donner le Booker à un moment donné, puis il a fait tout le cash qu'il avait à faire avec les prix littéraires au Canada, puis c'est une vedette internationale. Fait que, est-ce que c'est la faute de l'éditeur ou Michael Ondaatje c'est pas assez hot pour Twitter, tu sais, puis
Instagram,
tu sais, fait que fouille-moi, comme on dit. Ben moi j'ai mes hypothèses que je ne formulerai pas, là. Mais pour moi ça a à voir avec des attitudes par rapport à c'est quoi un objet littéraire. S'il y a une sacralisation trop grande de l'objet littéraire, il circule pas, ou la personne devient le high priest de quelque chose.
Mais c'était The English Patient qui avait vendu 80 000 ou
genre, là.
Ouais, mais c'est parce qu'il y avait aussi le film, tu sais, donc c'est vraiment... Tu sais, ouais. C'est comme Life of Pi ou... Tu sais, c'est des cas particuliers, mais je suis pas sûr que quand Alto fait une traduction de Margaret Lawrence, je suis pas sûr que ça se vend tant que ça.
Non. Moi, d'après moi, Alto, là, ils doivent bouger pas mal de livres parce que le chiffre... Ils ont des vaches à lait, là. Tu sais, ils ont Nicolas Dicknack qui vend beaucoup, puis Dominique Fortier. Puis certaines des traductions comme Eleanor Catton, des affaires comme ça... Il doit avoir un chiffre d'affaires là, qui dépasse les centaines de milliers de dollars à taux maintenant. T'sais, si on veut parler en termes
de marketing.
Eux, ils ont pris une formule où est-ce qu'ils ont pris le modèle d'édition trade paperback anglais. Même les formats sont copiés sur les... Puis ça marche. Parce que l'objet aussi interpelle le lecteur de roman. Il voit un roman avec une couverture cool. un chevalier, une fille, je sais pas quoi, et il va être du puits sur la couverture. Ça bouge à cause de ce que ça a l'air. Le cartonnier fait un excellent travail, mais le design des livres en fait pour beaucoup aussi. Puis la connexion aussi avec la vibe anglo-avant-garde. Puis ensuite, c'est Multimag, ils font une table avec ça, ça rentre des paquets de bonbons. Les éditions du jour, c'était pareil, mais c'était pas marketé de la même façon. Fait que il y a vraiment un thinking derrière ça qu'on néglige souvent. Le Boréal, là, ils vont finir par perdre de la vitesse aussi avec la façon dont ils fabriquent les livres. Toi, ça s'appelle Metatron. J'ai l'impression des Transformers. C'est comme la planète méchante, non?
Non,
Optimus Prime.
Metatron, originellement, ça vient de... C'est une forme géométrique sacrée. Donc, il y a un symbole, si tu tapes Metatron sur Google Image, tu obtiens genre 1 million de trucs. Puis, vraiment, c'est comme juste un symbole géométrique. Donc, c'est comme plusieurs formes qui sont mises ensemble. Mais tu obtiens avec ça, c'est comme... Il y a quelqu'un à un moment donné qui avait comme... Il y a une formule mathématique, puis il l'a découvert, c'est comme... Mais c'est superbe, ça vient de la nature. Fait que c'est ça, en fait, Metatron. Ça vient de
moi,
ça.
Je les avais remarqués, leurs livres chez Argo, tu sais, la petite librairie, les derniers survivants de l'indépendance, dans les librairies anglophones, tu sais. Puis les livres sont frappants parce qu'ils s'appellent Metatron. On dirait une affaire de science-fiction.
Mais ça fait partie, en fait, de la présentation. On s'appelle pas, genre, je sais pas moi, les éditions, exact. Puis en fait, juste se nommer avec un nom comme Metatron, ça donne une identité différente, ça donne comme souvent on va aller chercher un public qui est un peu plus jeune, donc fait que ça aide un peu au niveau de la présentation.
C'est un peu comme l'écrou, les éditions de ta mère aussi, tu sais, qui sont dans le même. Ça se rejoint.
Donc là-dessus, je pense sur cette dernière langue poétique qui est finalement le marketing, je pense qu'on pourrait conclure cette journée. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci à ceux qui ont été là. Bonne journée. Merci à tous.
Merci beaucoup.
Radio Spirale.